Petite trigger warning pour cette émission. On vous conseille de choisir votre moment parce qu'on aborde plusieurs sujets sensibles et notamment le sujet des pensées suicidaires. Du coup, prenez soin de vous et bonne écoute.
Le patriarcat est une narration et elle a fait son temps.
Aujourd'hui, nous vivons encore les conséquences de l'esclavagisme et du colonialisme.
Sous la chape du silence,
nos cœurs vibrent et hurlent.
La vie palpite.
De l'air.
Pour faire notre chemin dans ce monde, nous avons besoin de force et de nuances.
Nous voulons partager ce qui nous tient.
Nous bouge.
Nous bouleverse.
Nous traverse.
Nous voulons prendre le temps de déployer nos audaces.
Pour se délecter ensemble
des singularités.
C'est pas du courage, c'est qu'à un moment donné, il faut y aller, quoi.
Et la poésie, ça casse les frontières. Et c'est cet espace pour l'imagination qui m'a permis d'accumuler de la force et de livrer mes batailles.
L'éclat des noctules, une émission féministe, radicale, tendre, joyeuse.
Sur Roi du Rayon, 93 FM.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur l'émission de l'éclat des noctules du mois de décembre 2023. Aujourd'hui, au studio, il y a Yuri, Jojo qui va nous rejoindre, moi-même et une invitée spéciale, Marine.
Bonjour.
Et puis, bien sûr, Gaëlle à la technique. À l'approche des fêtes, on vous a concocté une émission sur la détresse psychologique, les craquages et la solitude.
Autrement dit, une émission sur les envers de la santé mentale et du confort relationnel. Du coup, on va parler des situations de détresse mentale, de souffrance psychologique, mais aussi des moments où on a des réactions qui semblent disproportionnées et des moments où on perd pied, même si des fois on souffre pas du tout à ces moments-là. Alors pourquoi on parle de tout ça dans une émission féministe? Bah d'abord parce qu'il y a eu la psychiatrisation des assignées femmes, le grand classique de l'hystérie. Hystérie découle du mot utérus, c'est dire à quel point c'est lié à des représentations de genre. Et que l'hystérie, entre autres, ça sert à décrédibiliser les paroles et les réactions des assignées femmes. Et au XIXe siècle, ça sert aussi à les enfermer si elles se comportent de manière inconvenante. Et plus près de nous, plus quotidien, il y a aussi le syndrome prémenstruel, où ça fait comme si ce qu'il fallait expliquer, c'est quand des assignées meufs posent des limites et arrêtent de s'adapter à tout sauf à elles-mêmes. Et que c'était ça qu'il y avait à expliquer plutôt que tout le reste du temps où on est quand même plutôt calme. Et ouais, j'avais envie de souligner au passage que cette désignation de folie, elle varie selon les minorités. Que par exemple, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans le traitement médiatique des moments où des gens, ils pètent des plombs et qui tuent plein de gens, quand les auteurs, ils sont blancs, ce qui est pointé, c'est la dimension psychologique de leur acte. Tandis que quand ils sont pas blancs ou d'origine étrangère, par exemple, leur acte est souvent plutôt lu comme découlant uniquement de leur appartenance à telle ou telle communauté. Bref, la question du craquage psy, elle nous semble importante en tant qu'elle sert parfois à nous discréditer. Mais en vrai, elle n'est pas qu'une insulte. En vrai, ça existe de perdre pied. Et nous, ici, là, on n'en parle pas depuis l'extérieur ou du surplomb. Dans cette émission, on est tous, toutes, concernés de manière différente. En vrai, vraiment, ça existe de perdre pied. Et quand ça arrive, quand notre rapport au monde, il est chelou, et que tout ce qu'on a pour se le représenter, c'est précisément des insultes, des assignations contrôlantes, des images inquiétantes, des personnages simplistes et souvent un peu fusibles dans des films ou dans des livres, ou même des fois des amalgames entre différentes formes de dinguerie, bah, des fois on sait pas trop comment faire avec tout ça. Et que du fait, peut-être du tabou, il arrive qu'on éprouve de la honte, de la haine de soi, et qu'il soit même difficile de reconnaître ce qu'on traverse. Et d'autant que le craquage ou la détresse mentale, ça produit parfois de la solitude subie, que ce soit une solitude réelle ou une sensation d'isolement, de solitude même quand on est bien entouré. Et cet isolement, cette solitude, elle produit à son tour de la détresse mentale, ce qui fait une sorte de cercle vicieux. Voilà pourquoi on a décidé de passer du temps avec ce sujet aujourd'hui, avec l'hypothèse que le déni, c'est pas la seule option, et que de donner forme, de partager autour de ces questions, ça permet de sortir de la honte et du tabou, et de la solitude dans laquelle, parfois, à notre corps défendant, on s'enferme.
Ok, alors c'est parti. Mais en fait, la santé mentale, c'est quoi? Comment on sait quand on est en craquage?
Eh bah oui, effectivement, une question que ça pose, une grosse question que ça pose, c'est la question de ce qui est normal et de ce qui est pathologique. Parce que oui, c'est chelou cette notion de santé mentale.
Oui, c'est pas comme quand on a une jambe pétée où c'est un peu clair et où ça crée une différence assez nette avec le fait d'être en bonne santé. Là, de l'extérieur, des fois, ça se voit pas trop.
C'est ça. Et du coup, ça aide pas à s'y retrouver, que ce soit invisible ou survisibilisé, caricaturé. Que du coup, ces états de perdre pied ou de folie, c'est présenté comme du tout autre, alors que parfois, c'est juste des questions de degré ou des questions de contexte.
Oui, parfois, c'est le fait que ça devienne empêchant qui permet de poser un diagnostic. Mais en fait, c'est des états qu'on retrouve aussi dans ce qu'on appelle la normalité. Et du coup, depuis l'intérieur, finalement, on se rend compte qu'on n'est pas si différent et que sans que ça devienne des incapacités, on retrouve des symptômes à l'intérieur de soi.
Grave. Et du coup, bon, qu'est-ce qu'on peut se donner comme critère pour penser cet endroit-là de la santé mentale ? Alors bien sûr, il peut y avoir la douleur. Mais ouais, une douleur difficile à appréhender. Parfois, parce qu'il y a toujours cette question du lieu. C'est chelou d'avoir mal, très mal, à nulle part. C'est difficile à reconnaître, c'est difficile à nommer, c'est difficile à faire reconnaître. Là encore, c'est pas comme une jambe pétée où on risque pas de s'entendre dire « t'as rien, retourne bosser ». Et parfois aussi, quand on a l'habitude d'aller mal, bah c'est difficile de... C'est difficile de...
Faire la différence, quoi.
Ouais, c'est ça. Exactement, et que c'est parfois quand on en parle, quand on peut comparer, qu'on peut voir les différences et les similitudes. Et... Mais du coup, comment savoir ce qui est partagé quand c'est des questions qui sont taboues ? Des fois, soit pour des raisons de respectabilité ou de ne pas prendre trop de place en tant qu'assignée meuf, on est amené à masquer ce qu'on vit, ce qu'on ressent, comment on se sent. Et alors, comment on fait quand les autres tombent dans le panneau et ne peuvent pas nous renvoyer que là, on est en train de craquer ? Des fois, ça fait vraiment des effets de solitude qui sont immenses, quoi. Du coup, il y a ce critère de la douleur, mais la douleur, ce n'est pas le seul critère. Parfois aussi, on traverse des intensités, des rapports au monde qui décalent fort, sans forcément que ce soit douloureux. Et alors ça pose encore plus question parce que c'est pas un détail que ce qui dysfonctionne dans ces moments-là, ce soit l'endroit depuis lequel on voit le monde, depuis lequel on pense le monde, depuis lequel on lui attribue de la valeur ou du sens. Parce que ça vient questionner le sujet même. Sa responsabilité, son consentement, sa capacité de décision et d'action. Parce que quand il s'agit de psychologie, d'espace mental, c'est quoi la santé ? C'est quoi être normal ?
C'est quoi une vie normale ? Putain, mais qu'est-ce que ça veut dire une vie normale ? Putain, mais une vie normale, c'est quoi ? C'est quoi une vie normale ? Putain, mais qu'est-ce que ça veut dire une vie normale ? Payer ses factures, c'est une vie normale ? Et s'arracher les cheveux parce qu'on peut pas les payer, c'est quoi ? S'arracher les cheveux parce qu'on peut pas les payer, c'est une vie normale ou une vie pas normale ? Et s'en foutre ? Et s'en foutre, c'est quoi ? C'est normal ou c'est pas normal ? C'est normal ou c'est pas normal de s'en foutre ? Et regarder s'entasser sans en avoir rien à foutre. C'est une vie normale ou pas ? C'est normal ou c'est pas normal ? C'est quoi une vie normale ? Putain, mais c'est quoi une vie normale ? Préférer aller au resto plutôt payer le loyer, c'est une vie normale ? Et être clochard, c'est une vie normale ? Ou une vie pas normale ? C'est normal ou c'est pas normal d'être clochard ? Normal ou pas normal ? Et s'en foutre d'être clochard, c'est quoi ? Ne pas avoir peur d'être clochard, c'est une vie normale ? Ou une vie pas normale ? C'est normal ou c'est pas normal ? Et être terrifié de devenir clochard, et avoir peur de ça au point d'obéir à n'importe qui, obéir à n'importe quoi, parce qu'on a peur, c'est normal ou c'est pas normal ? C'est une vie normale ou une vie pas normale ?
C'était Normal de l'artiste Pétasse, qu'on retrouve sur l'album Pandemos. Et c'est un album qui a été créé en soutien au STRAS, qui est le syndicat du travail sexuel en France.
Marina, l'anarchiste. J'ai assisté, l'été 2023, à la présentation de cas d'une patiente par 4 membres de l'équipe du CMP qu'elle fréquente. Ici, je voudrais non pas raconter l'histoire d'une patiente que je ne connais que par la fiction et dont jusque le prénom avait été changé, mais plutôt l'expérience de ma rencontre avec le récit, avec les mots choisis pour en parler et ce que ces mots sont venus questionner en moi. Marina, l'anarchiste. Déjà ce prénom si proche du mien, et cette pensée politique avec laquelle je me reconnais quelques affinités. Je me suis rapidement dit, mais est-ce qu'il parle de moi ? Pendant la présentation, le mot anarchie n'était pas étudié différemment des autres symptômes, ni des autres bouts de vécu de Marina. Abandon, agression physique, prise de drogue, anarchie, agression sexuelle, voyage en camion, inceste, provocation. J'ai même fini par demander si Marina se disait elle-même anarchiste ou si on lui en avait collé l'étiquette. Non, c'était sa position. Et le fait qu'elle soit perçue au même régime symptomatique que le reste me poussait à demander « Mais qu'est-ce que vous en faites ?» Parenthèse, je n'ai pas pu avoir de réponse à cette question parce que je me suis fait couper la parole par un homme blanc de 60 et quelques, psychiatre. Bien sûr, la psychiatrie n'est pas du tout épargnée ni par le sexisme ni par le racisme. Comment croire qu'elle l'est par le libéralisme ? Fin de parenthèse. Donc, qu'est-ce qu'on en fait ? Une patiente déclare un positionnement politique radical, qu'est-ce qu'on en fait ? Quand j'ai vécu moi-même une forme d'effondrement mental, que j'ai senti le sens voler un peu en éclats, il était difficile de trouver des points d'appui solides. Je me suis rendu compte qu'on ne s'appuie pas pareil sur une valeur que sur une émotion, sur une sensation que sur une interprétation. Mais sur toutes ces choses, il s'agit de s'appuyer pour émerger, pour sortir un peu la tête de l'eau. Ça me travaille en ce moment, ces endroits d'adhérence et de désadhérence. Comment parfois on arrive à faire coller, puis ça se décolle. Je me suis aperçu aussi que quand une émotion, une sensation, une interprétation, mais d'autant plus une valeur, me sert d'appui, et que le monde extérieur vient me dire « tu vas te calmer, ça va passer », comme si c'était seulement un symptôme et non un outil vers le sens, ça me donne plutôt envie de tout péter. Marina était présentée comme une patiente très provoque, le mot est posé, provoque. Ce moment où elle devait prendre sa douche sous la supervision d'une aide-soignante ou d'une infirmière, à qui elle aurait dit « ah t'aimes bien ça, te rincer l'œil », alors qu'on attendait d'elle qu'elle se déshabille. Alors bien sûr, pour la soignante, dans son monde, où il ne s'agit pas de se faire plaisir à regarder Marina se déshabiller, la phrase est vécue comme une provocation. Mais dans le monde de Marina, et dans le mien aussi, la contrainte du déshabillement, prise dans un rapport de domination soignant-soigné, peut être vécue avec humiliation. Et la personne qui tire profit d'une situation de domination est toujours le dominant, même lorsque ce profit n'est que le bénéfice d'être en contrôle de la situation. Et justement, j'ai le sentiment qu'on peut interpréter le vécu de cette douche en venant en souligner les rapports de domination aussi grâce à la pensée anarchiste. Ah, t'aimes bien ça, te rincer l'œil. C'est peut-être pointer du doigt une injustice par un refus net d'adhérer à l'évidence qui voudrait normaliser l'obligation de se déshabiller devant quelqu'un. C'est refuser le monde construit des soignants et faire exister le sien de dominé, avec une sorte d'urgence et les moyens du bord. Mais si l'anarchie de la patiente est perçue seulement comme un symptôme et pas comme un outil de compréhension, de positionnement dans le réel, alors la cohérence disparaît. « Ah, t'aimes bien ça, te rincer l'œil » ne peut être autre chose que de la provocation. Et le sujet ne peut être autre chose qu'un ensemble de symptômes, tous équivalents les uns aux autres. Mais alors c'est peut-être valable pour tous les sujets. Car finalement, dans cette situation, qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui est pathologique ? L'inconfort de se déshabiller devant quelqu'un, le confort de se sentir en contrôle de la situation, la colère d'être dominé, l'incompréhension d'être dominant, la provocation d'une phrase ou l'interprétation de la phrase comme une provocation. Et qui est le mieux à même de comprendre le monde de l'autre ? En écrivant ce texte, j'ai retrouvé un enregistrement dans lequel je lis cette phrase que j'imagine être de Jacob von Uxkull. Pour bien plaider, il faut bien connaître, il faut entrer dans la tête de ce que l'on défend. Il faut accepter de se perdre dans le monde de l'autre, à travers ses sens. Tenter d'approcher son Umwelt. Traduction approximative, tenter d'approcher son monde propre. Accepter de se perdre dans le monde de l'autre, c'est peut-être toujours au risque de bousculer le sien. Et ça ne se fait probablement pas sans accroc. D'ailleurs, et c'est à souligner je crois, malgré de nombreuses propositions, Marina refuse de quitter le CMP. J'ai envie de penser que c'est une santé, de tenter de faire exister son monde là où il n'existe pas déjà, au risque du conflit et de l'incompréhension, au risque de l'inévidence.
Merci Marine.
Merci.
Et...
Je suis émue.
Moi aussi. Et ouais, dans ce que tu dis, on voit que ça pose question, le fait d'être resignifié de l'extérieur, le fait que ce sur quoi on s'appuie soit resignifié comme symptôme. Et j'ai l'impression que c'est un endroit où, même si là, la personne, elle arrive à porter sa parole et à dire les choses, en vrai, il y a de quoi quimper dans le fait d'être mis à cette place-là. Et ouais, même si ça ressemble à de la santé, de venir porter sa voix malgré tout, ça semble fatigant et parfois décourageant. D'où l'intérêt, parfois, de donner forme à nos vécus, de creuser, d'élaborer aussi précisément que possible, et de sortir du tabou sans forcément être dans le bureau d'un psy.
Ça me donne envie de dire des trucs, mais,
grave,
mais... je suis le fil. Uh-huh. Je suis le fil, je m'accroche au fil. Alors maintenant, nous allons écouter une interview de Roux qui va nous lire aussi des textes de l'artiste qui s'appelle 13.
Alors Roux, tu es un artiste qui habite ici dans le Royan et tu travailles sur la santé mentale comme matière pour ta prochaine création de spectacle de clown. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton processus de création ?
Alors, ça s'appelle « Si j'étais psychiatre ». Ça a démarré la semaine dernière. Donc, on est en plein moment de étalage de toute la matière qui pourrait sortir. Et du coup, le processus, il a commencé il y a longtemps. Il y a longtemps, je me suis dit que j'allais écrire sur l'enfermement. Je voulais appeler ce spectacle « L'enfer me ment ». Et du coup, je voulais parler de l'enfer qu'on vit quand on est enfermé. Je voulais parler de la contention et je voulais un peu parler depuis mon vécu. Et en même temps, j'avais envie de brasser la matière du clown pour rentrer aussi en dérision avec tout ce qui nous est proposé. Et du coup, la première matière qui sort là en ce moment de ce spectacle, c'est « Si j'étais psychiatre, qu'est-ce que je ferais ?» Et du coup, y a comme un énorme panel gigantesque qui s'offre à moi en fait, si j'étais psychiatre, j'aurais peut-être deux énormes oreilles et j'écouterais vraiment les gens. Et puis peut-être que je me formerais au consentement. Et puis peut-être qu'en fait, je leur proposerais là d'aller crier dans la forêt. Enfin, et du coup, il y a des choses qui sortent là en impro. En tout cas, c'est les prémices, quoi. C'est tout le début de la création que je vous livre. Mais où vraiment, il y a un truc qui est goûtu, c'est d'imaginer un peu le psychiatre que j'ai jamais eu et que j'ai toujours cherché et que je cherche encore. Et que j'ai l'impression d'envoyer une bouteille à la mer avec ce spectacle de « Est-ce que ça existe ?» Un psychiatre qui écoute et qui a envie de mettre les médicaments avec le consentement de la personne qu'elle ou qu'il a en face de lui. Et je crois que c'est un peu mon combat intérieur de dire « Est-ce qu'il existe une liste de psychiatres qu'on pourrait établir ensemble et qu'on pourrait se filer pour aller mieux ?»
Et est-ce que c'est lié à... T'as des figures de psychiatres que t'as rencontrées dans ta vie et qui sont, du coup, ceux que t'as pas envie de revoir jouer dans ton spectacle?
En fait, moi, j'ai eu 13 psychiatres au total sur 10 années de diagnostic et de médicamentation. Moi, je suis bipolaire depuis 10 ans. Et du coup, j'en ai rencontré beaucoup. Et il y a quand même un archétype qui est ressorti d'hommes qui ont une stature, une confiance, une aisance dans la discussion et qui font très vite des conclusions rapides, mais aussi qui essayent de tout de suite trouver le médicament adapté à la parole, en fait, qui est nommé. Donc du coup, il n'y a pas plusieurs rendez-vous, il y a un rendez-vous et puis tout de suite, ça étiquette très vite. Et du coup, c'est des gens avec qui j'ai pas eu le mot à dire, en fait. J'ai pas la sensation d'avoir vraiment été entendue dans ce que je vivais. Et j'ai pas l'impression qu'on m'ait posé des questions beaucoup pour creuser, quoi.
Quand tu parles de bouteille à la mer, tu l'envoies à qui ?
En fait, je l'envoie. Le but de ce spectacle, c'est de dire on n'est pas seul déjà dans cette quête de trouver le psychiatre qui va nous permettre d'avoir les médicaments adaptés, mais aussi dans la quête de se faire entendre et de pas se faire surdiagnostiquer. Du coup, il est à destination de toute personne qui aurait de près ou de loin un rapport à la santé mentale, c'est-à-dire tout le monde. Et du coup, dans un deuxième temps, il est aussi là pour dire aux personnes diagnostiquées qui sont pas encore stabilisées et rétablies de leur maladie, il existe des professionnels. Et du coup, faire un appel après mes spectacles pour dire si vous connaissez des psychiatres, marquez leur numéro, que je les appelle, que je leur montre le spectacle. Et aussi parce que je suis en quête, moi je vais monter des séjours pour des personnes bipolaires, pour leur permettre de s'exprimer et d'exprimer ce qu'elles ont pu vivre en hospitalisation, mais aussi en dehors, dans leur crise. Parce qu'en fait, les crises et tout ce qui fait dysfonctionner une personne qui a une santé mentale fragile, c'est le fait de pas pouvoir exprimer les traumas et les choses qui ont été associées. Du coup, ça crée des récidives. Et moi, je suis là pour ce spectacle, pour permettre à des gens de pouvoir se dire il y a des solutions autres que les institutions. Il y a des gens qui y pensent, il y a des gens qui en parlent. Voilà.
Thank you.
Charge, écrit par 13. Au début, j'ai la montagne. C'est le stock d'épreuves. Dans ma chambre, je garde toutes les boîtes et les emballages vides. Ça forme un grand tas dans un coin. Jeter ces boîtes, je ne peux pas. Je les garde. Ce sont les preuves de ce qui est mis dans mon ventre depuis plus de 2 ans. Elles tracent ce qu'on me fait à ma place. Moi, je ne peux plus suivre. Je suis en compote. Je passe tellement de temps au lit que je n'arrive pas non plus à suivre ce qu'ils le font à mon corps. Je ne me rends pas compte que je grossis. Je ne connais pas les contours, les formes de mes nouveautés graisseuses. Je ne sens rien. La tête molle et les cordes vocales en lambeaux, mon corps se charge de parler. L'alourdissement dit à ma place, attention, ce que vous faites là, c'est trop lourd à porter et je ne peux plus bouger. Aïe, ça fait mal. Vous êtes en train de me clouer sur une place. J'ai une image de moi-même erronée et je suis une personne de 70 kilos. Pourtant, je me pèse et dispose de l'information que, les mois de traitement passant, je stocke. Pendant tout un moment d'ailleurs, je redoute de faire péter la barre symbolique et puis ça y est, c'est fait. J'ai le poids à 3 chiffres, le corps gros des médocs, je ne le vois pas, mais le tas des boîtes vides, oui. Il fait pense-bête. Ça prend de la place. Ça rappelle toute la merde que j'ai ingurgitée. Ça envahit. Ça dit que c'est lourd. Je finis par mettre la montagne dans le placard. Ainsi, elle ne tombe plus sous mes yeux qu'à l'ouverture. C'est moins glauque. Mais ça n'est pas pratique, car les boîtes vides viennent se coincer dans la porte. À chaque fois que je les repousse, ou au fond, pour refermer. Je n'aime pas ce geste-là. Que je refais sans cesse. C'est comme si j'appuyais sur moi-même pour repousser à l'intérieur. Je repousse au fond de moi les boîtes déjà gobées. De toute façon, au bout d'un temps, le placard est vraiment trop plein. Ça déborde et le tas recommence à pousser dans ma chambre. Ça finit par faire trop mal. Alors, je trouve une solution. Je commence à collectionner mes ordonnances. Ce sont des excellentes preuves. Plus complètes. On a la posologie et c'est daté. Elle porte en sus la signature de celui qui a ordonné. Je suis satisfaite. Je peux jeter toutes les boîtes de la montagne. Après, lorsqu'il me tend le papier, c'est plus facile. Il ne sait pas, lui, mais moi je le sais, que je vais le mettre dans ma collection qui stocke la preuve sans me prendre la place. Je suis contente. Je peux porter mon attention en entier sur ce sentiment. Et je n'ai plus besoin de me concentrer sur la politesse. Cette collection qui m'amène un magnifique bénéfice collatéral. Je ne dis plus merci. Le clown, pour moi, c'est l'outil qui, moi, me permet de m'exprimer sans limite et sans barrière. C'est-à-dire d'emprunter des archétypes et de, tout d'un coup pouvoir crier, en même temps pleurer, en même temps être droit, en même temps être sincère, en même temps être au présent avec ce que je vis, moi, dedans et de la complexité que c'est. Enfin, en fait, pour moi, le clown, ça s'y prête parce que c'est un peu tout le monde. Et personne à la fois.
Et puis, on peut aller loin dans l'expression des émotions, peut-être, dans le clown.
Bah, c'est ce que j'ai vécu moi dans mes impros. Ouais. Il y a vraiment un truc qui ressort de le psychiatre, il peut péter les plombs, le patient, il peut être entendu, et en même temps, il peut être totalement dévasté, mais en même temps, il peut être totalement fort, il peut être totalement. Et du coup, j'ai l'impression que tout ça, ça navigue d'une seconde à l'autre et que c'est pas du tout une question de costume ni de personnage. Et du coup, que ça étiquette pas, ça sclérose pas, ça. C'est le clown, il vit et puis il raconte, mais pas vraiment, il vit ses émotions et ça explose, mais aussi ça. Ça respire. Moi, je me sens rétablie dans le sens où j'ai mis 8 ans à accepter mes médicaments. J'ai changé 3 fois de médicamentation. Là où j'en suis aujourd'hui, c'est que j'aime le fait que je traverse un trouble bipolaire qui est aujourd'hui en dormance grâce à tout ce que j'ai mis en place pour mon hygiène de vie, mais aussi à tout ce que j'ai mis en place vis-à-vis de mes proches, des gens qui m'entourent, des gens qui me connaissent, qui ont vécu ces phases maniaques, ces dépressions, qui m'ont accompagnée. Et du coup, aujourd'hui, je dirais que je suis comme protégée par un halo de tous ces proches qui m'aiment, à qui j'ai écrit un protocole au cas où ils me sentent en phase maniaque ou au cas où ils me sentent en dépression, qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour moi, pour m'accompagner. Et puis j'ai mis en place un réseau sur WhatsApp, enfin, pour que les gens soient au courant, qu'ils puissent se tenir au courant, les gens. Parce que moi-même, je sais très bien que ça peut arriver comme ça et me choper. Donc je me sens rétablie. En même temps, je sais très bien que c'est jamais gagné, que c'est une vigilance de tous les instants et de surtout tous les jours vis-à-vis du sommeil, vis-à-vis des heures de repas, vis-à-vis des chocs émotionnels et puis de l'accompagnement psy qui ça te demande d'avoir derrière et puis surtout d'avoir une grande hygiène vis-à-vis des médicaments. Du coup, maintenant que je suis sous lithium, ça a vraiment été un axe très libérateur pour moi. Et surtout, j'ai l'impression de sortir de cet enfer des hospitalisations, puis ensuite des dépressions, puis ensuite de la restabilisation, puis recrise, re-hospitalisation. Et du coup, de me fragiliser toutes ces années. Et au bout de 10 ans, là, j'ai l'impression d'avoir capté que c'était la dernière hospice que je faisais déjà il y a 2 ans. Et qu'aujourd'hui, je me sens prêt. En fait, à prendre mes médicaments jusqu'à la fin de ma vie. Ce qui n'était pas le cas avant, en fait. Ma tête était une commode très bien rangée. J'avais des tiroirs pour tout et j'aimais bien l'organiser. Depuis que je suis au pays psychiatrique, j'ai perdu ma façon de penser. Ça marchait bien, la commode. Un peu de fatigue, c'est sûr, mais ça marchait. Je rangeais chaque idée, chaque souvenir, chaque sensation, chaque comportement dans des petits tiroirs avec des thèmes, eux-mêmes organisés dans des étages à thèmes. L'information y était plus ou moins accessible, mais c'était confortable que tout soit placé quelque part, à sa place, en moi. C'est grâce à ma commode que je pouvais entièrement me concentrer sur l'autre pour agir correctement. J'avais appris à faire ça avec mes difficultés à l'école maternelle. Aujourd'hui, la commode fonctionne mal, c'est cassé. À l'intérieur, je ne retrouve pas mes tiroirs. Je bataille avec mes poignets. Mes logistiques de rangement, interagir est devenu dur. Je connais l'expression « se faire des nœuds au cerveau », mais je n'ai pas de nœuds dans la tête. J'ai les pensées qui vont dans les impasses. Plus rien ne circule. Je suis comme une ville dans laquelle il n'y aurait plus que des cul-de-sac. J'arpente des casse-têtes qui reviennent sans cesse, espérant de mon cerveau des issues qu'il ne trouve pas. Le fameux dilemme du changement de psychiatre. Un classique qui a creusé dans beaucoup de têtes au pays. En théorie, nous sommes censés être suivis par un psychiatre en qui on a confiance. En pratique, ça ne marche pas du tout comme ça. C'est délétère. D'ailleurs, le vocabulaire lui-même est à l'envers. Le psychiatre ne suit pas. C'est lui qui mène. Je suis épuisée. Je ne veux plus de ma psychiatre en titre. J'en ai assez de ces mains qui grattent l'A4 immaculée, de mon vécu dégueulasse, assez de ces rictus de bouche, de ces regards, de ces jugements, assez de ces sourcils surtout. Je crois qu'elle n'est plus dans son rôle. Ou alors, c'est moi qui ne suis plus dans le mien. Quelque chose est coincé. Il existe un mécanisme de survie très courant au pays psychiatrique, l'économie d'énergie. Lorsque les psychiatres ne comprennent pas nos choix, ils en font des trucs pathologiques. Ils s'imaginent parfois même qu'on s'autodétruit dans des situations où on est souvent simplement en train de servir nos propres intérêts qui diffèrent de ceux qu'ils valident. J'ai observé que mes collègues de psychiatrie ont une très bonne maîtrise de l'économie d'énergie. C'est rodé. Je pense que c'est même inconsciemment que ça se passe. Comme chaque mouvement, chaque décision, chaque changement demandera des efforts, provoquera des événements qu'il faudra être capable d'absorber. Au bout d'un moment, on avance en évaluant. Pour certains d'entre nous, les pensées suicidaires ne sont jamais si loin, et un petit échec de plus pourrait coûter lourd alors à leur statu quo. Pour d'autres, une poussée parano sur un nouveau sujet pourrait se déclencher. Alors, la bonne vieille stratégie d'évitement fait toujours ses preuves. Autre possible, subir de nouveaux abus d'ordonnance ou empirer une situation psychologique d'écrasement. On sait instinctivement que les probabilités que ça arrive ne sont pas marginales. Bref, consciemment ou inconsciemment, les risques font qu'on calcule.
Comment tu gères ça dans ton travail de création ?
Je dors. C'est-à-dire que, bah, par exemple, je fais une heure et demie de travail. Sur le plateau, je fais 30 minutes d'impro. Ensuite, on fait un débrief. Et puis, bah, je sens que quand l'émotion a été vraiment vive, et ben, en fait, je fais des siestes. Et en fait, c'était un peu ma manière de m'auto-réguler. En fait, quand il y a une émotion qui est vive, j'ai besoin, mon corps, il a besoin de rentrer dans un sommeil pour déposer, intégrer qu'il y a eu une mémoire qui s'est réactivée. Et puis surtout, je me fais suivre en thérapie EMDR, en thérapie ACP. Et plus j'ai une somatologue. Donc en fait, moi, je suis méga entourée de personnes qui, si jamais je décompense, peuvent permettre de la redescente ou l'hospitalisation, et c'est ok pour moi en fait. Alors que je suis assez sereine avec ce que j'ai traversé pour me dire que je connais les premiers signaux et que du coup je vais pas monter graduellement vers la phase hypomaniaque puis la phase maniaque. Enfin, du coup, je me propose de dormir en général.
Dans les entrailles, ça me fait des rails à l'intérieur. Je tiens ma colère en tenaille comme un cordon directeur. J'ai la rancœur à boire, les trous de mémoire cathartique, j'écope mes histoires, ces gorgées m'intoxiquent. J'ai les savoirs aux oubliettes et la violence en bandoulière. J'ai la justice en balayette et la pensée dans les œillères. C'est tout classé, ils condamnèrent. J'ai placé mes récits dans des boîtes, à eux les regrets. Missionnaire. Moi mes chagrins, je les rabote. J'ai la tête envahie par les lobbies pharmaceutiques. Le sucre de la vie, coincé dans les yeux. Des angoisses en vrac, une errance extatique. Tu vis dans stock, l'avenir périlleux. Je me balance dans mes orbites. Ils disent déviance, où ça amène. J'aime les scénars de mort subite. Mais je crèverais ceux qui polluent mes veines. J'ai la mer dans la bouche et la douleur dans l'utérus. Je sens ma peau prise par des couches. J'ai du poison jusqu'à l'anus. Je bouffe leur médoc, c'est des factures. Et ça débite dans mes viscères, ils ont bien trop bousillé ma nature. Je vais m'argouter dans la glissière. Dans la glissière. Dans mes viscères. J'ai de la haine dans les entrailles. Ça me fait des rails à l'intérieur. Je tiens ma colère en tenaille comme un cordon directeur. J'ai la rancœur à boire, les trous de mémoire cathartiques, j'écope mes histoires, ces gorgées m'intoxiquent. J'ai les espoirs tronqués, les croyances vacillantes. J'ai la foi toute parquée et les amours chancelantes. J'ai les envies dans l'illusoire, le désespoir logique. J'ai le désir dans une passoire et les fantasmes frénétiques. Je vis l'infini de l'échec avec ma chatte en étendard. J'ai le féminisme en gros fake si je touche la bite de cet tocard. Je sors de mon corps, ça me décale. Il banalise ce mécanisme devant la faciale sociétale. Je me révolte plus sur leur cynisme. J'ai une flaque de sang en murmure qui ruisselle. Y'a comme une claque d'obéissance qui cogne dans le mur cicatriciel. J'ai l'ego en oubli majeur. Je fais comme si je me voyais pas. J'entends l'écho de mes erreurs en stéréo qui marque mes pas. Ah, ah, ah.
On vient d'écouter donc 13.
Est-ce que toi, tu as déjà eu des moments dans ta vie que tu pourrais qualifier de détresse ou de souffrance psychique ?
Oui.
Ouais ?
Oui, dépression.
Ouais. Et est-ce que qu'est-ce qui t'a permis de traverser ces moments ?
Alors, bizarrement, en général, ça parle pas trop aux gens, mais l'idée du suicide, qui pour moi est l'échappatoire ultime, et je me suis toujours dit quand ça allait pas, que si ça allait vraiment pas, j'avais une porte de sortie. Et en fait, c'est toujours ce qui m'a permis de me rendre compte que ça allait pas si mal que ça.
Alors, c'était la question d'après, finalement, est-ce que t'as déjà eu des envies de mettre fin à tes jours?
J'y ai pensé, j'ai jamais... Le truc que j'ai... Enfin, là où je suis allée le plus loin, c'est de regarder quelle était la manière la plus rapide et la plus indolore de le faire. Et une fois que j'ai su ça, je savais que j'avais, on va dire, ma solution, si jamais. Et puis, je l'ai jamais mis... Enfin, c'est comme je te disais tout à l'heure, en fait, à chaque fois que je me disais, bon, si ça va vraiment pas, je peux m'en aller. Et j'étais là, mais en fait, ça va pas assez mal pour m'en aller, quoi. Donc, ouais.
Ça t'a tenu en vie
Ouais, en gros, c'est ça. Et je sais que j'en ai parlé avec des amis ou quoi qui ont des tendances dépressives aussi et qui comprennent pas forcément. Même si eux ont des idées noires, ils se disent pas que l'idée du suicide les rassure dans la vie, en fait. C'est un point de vue qui m'est propre, que j'ai partagé aussi avec d'autres gens, mais la plupart des personnes à qui j'en ai parlé captent pas trop, quoi.
Qu'est-ce que tu avais trouvé dans tes recherches qui t'a un peu rassuré en disant « Ok, ça, c'est ma solution, si jamais
» Le gaz. J'en rigole, c'est pas drôle, mais ouais, genre laisser le gaz ouvert pendant la nuit, quoi.
Ok. Est-ce que t'as dans ta santé mentale en général, enfin en dehors des crises, qu'est-ce que tu fais pour maintenir un peu une santé équilibrée?
Alors déjà, ça fait longtemps que j'ai pas eu une grosse crise de tristesse, quoi. Mais déjà, j'ai arrêté de fumer des joints quotidiennement, ce qui m'a pas mal aidé. Je suis passée, en fait, j'ai arrêté parce que je savais que ça m'aidait pas. Et en fait, en arrêtant, j'ai eu une grosse crise de dépression parce que du coup, je me suis retrouvée face à tout ce que je foutais sous le tapis en m'en fumant le cerveau tous les soirs. J'ai pris un rendez-vous chez le psy au lieu de me remettre à fumer. Donc ça m'a pas mal aidée. Et sinon, écrire, je sais que ça me fait du bien. Danser toute seule dans mon salon. Chanter, voir des potes. Picoler aussi de temps en temps. Je sais que c'est pas une solution en soi parce que voilà, mais je sais que ça me permet aussi de lâcher du lest de temps en temps. Si je le fais pas trop souvent, c'est cool. En général, je sais que quand je fais quelque chose, quand je me mets à l'action, que je fabrique un truc ou quoi, ça me fait du bien. Mais quand je suis vraiment déprimée, j'ai beaucoup de mal à me mettre en action, en fait. Donc je vais au plus simple, c'est danser. En général, danser dans mon salon, ça me fait beaucoup de bien.
T'arrives à enclencher cette solution-là
Hyper rapidement, parce que c'est vraiment un truc que je fais tout le temps. Donc, que j'aille mal ou que j'aille bien, je danse. Et je sais que ça me fait énormément de bien quand je vais pas bien, quoi. Me délester aussi physiquement des trucs qui vont pas, voilà, que personne me voit, que je sois dans mon salon, que je mette de la musique et que je danse comme je veux. Et là, c'est vraiment, je sais que ça me fait du bien.
En fait, cette question du suicide, quand on en parle, on se rend bien compte. On se sent hyper isolé et seul quand on les vit. Et pourtant, en fait, on est plein à les partager. C'est pour ça qu'on veut un peu sortir ce truc-là du sentiment de solitude et de se dire, en fait, c'est partageable. Et est-ce que toi, tu trouves que c'est facile d'en parler avec des proches ou avec d'autres gens?
Moi, oui. J'ai pas de mal à partager. J'ai pas de mal à demander de l'aide non plus. Enfin, c'est pas que je trouve ça facile parce que c'est pas évident de confronter les gens qu'on aime avec la possibilité qu'on se barre parce que ça va vraiment pas, quoi. Mais moi, j'ai pas de mal à en parler. Quand ça va pas, je le dis. Je suis déprimée. J'ai envie de voir personne. Ça va pas.
Et qu'est-ce qui fait que t'es encore en vie alors?
Déjà, je n'aurais jamais le courage de m'ôter la vie toute seule. Enfin, ça, je sais que c'est un truc... Et y ayant réfléchi et cherchant les trucs, je sais que j'aurais pas... Et c'est surtout que je suis toujours surprise par la vie et que j'ai tendance... ça, c'est un truc que j'adore chez moi, c'est à voir la beauté dans les petites choses. Et vraiment dans des trucs rikiki, quoi. Genre, si un jour, je vais vraiment pas bien, que je sors de chez moi et que là, il y a quelqu'un qui me fait un immense sourire et que je le connais pas, je me dis que la vie vaut le coup d'être vécue. Et je sais que c'est pas grand-chose, mais moi, ça m'aide, quoi. Et plus les bonheurs sont petits... Plus quand je vais mal, et ben ils prennent de l'ampleur en fait. Et du coup, ouais, ça m'aide.
Waouh. Et ouais, des fois ça va pas, c'est vrai. Et des fois ça s'explique par tel truc qu'on vient de traverser, telle embrouille, telle injustice à laquelle on a assisté. Des fois ça se comprend. Et puis des fois c'est plus mystérieux, on sait pas trop d'où ça sort, mais ça impacte l'intime de notre rapport au monde. Ça rend difficile la cohérence avec l'extérieur. Ça dysfonctionne.
Et du coup, ce qui va suivre maintenant, ça décale un petit peu du registre sur lequel on a un peu exploré ces questions-là jusqu'à maintenant. C'est plutôt un peu, on plonge dans le regard de gens qui ont des postures qui cherchent à comprendre avec le prisme des sciences, les prismes biochimiques, du système nerveux, du système neuronal et tout ça. Donc ça reste, c'est extrêmement balisé. Donc, cette approche-là, mais ça peut être intéressant quelquefois d'avoir des petites infos. Ça complète. Et donc, c'est une tentative de vulgarisation de résultats qui proviennent d'études cliniques, d'études universitaires, de techniques d'imagerie médicale et de recherches en laboratoire par différentes équipes qui se sont posées différentes questions. Donc, la question de comment le psychotrauma se traduit dans le corps et particulièrement dans le cerveau. La question de pourquoi est-ce qu'on n'est pas toutes et tous résilientes de la même façon. La résilience, en gros, c'est quand notre santé mentale et physique s'adapte, se rétablit et voire grandit face aux traumatismes que la vie nous amène à traverser. Et enfin, qu'est-ce qui permet l'homéostasie et donc la résilience? Et alors l'homéostasie, c'est plus physiologique. C'est un vaste réseau de réponses physiologiques qui maintiennent notre corps en équilibre et qui rétablissent cet équilibre en cas de problème.
Les victimes d'accidents de la route graves, quand ils sont à proximité des lieux de l'accident ou même à côté d'une grosse route, ils peuvent avoir des accès de panique. Mal au ventre, mal à la tête. Tu peux nous expliquer ce qui se passe pour eux, Chico ?
Eh oui, Jojo. Quelquefois, ça peut être une situation de stress post-traumatique, on appelle ça. Le stress post-traumatique, c'est quand ce vaste réseau de réponses physiologiques dont je parlais tout à l'heure, l'homéostasie, subit des perturbations. Donc l'homéostasie ne se fait pas. Et donc ça affecte différentes fonctions de notre corps et de notre être. Donc un des endroits du corps où on peut le mieux visualiser comment on est affecté, la façon dont on est affecté quand on vit avec les conséquences de ces traumatismes, c'est le cerveau. Et ces conséquences, ça s'appelle donc le syndrome de stress post-traumatique. Donc quand on regarde les zones du cerveau, dont l'activité, elle est observée par des signaux électriques que ces zones émettent, et qu'on compare des cerveaux de personnes avec et sans troubles de stress post-traumatique, on peut observer les différences des zones qui sont désactivées et des zones qui sont plus activées. Ces zones correspondent à des fonctions. Alors, il y a différentes fonctions qui sont altérées. Il y a d'abord la fonction du rapport au temps et à la mémoire qui s'éteint. Par exemple, je suis hantée par des images, je me souviens plus bien du contexte du trauma ou alors même j'ai oublié l'expérience traumatique. Je continue à être en alerte car j'ai la sensation que le passé n'est pas le passé mais bien toujours actif dans le présent. Je perds ma mémoire vive et je perds la notion du temps qui passe, par exemple. Il y a aussi les fonctions de la parole qui s'éteignent lorsque je suis dans l'état qui est lié au trauma. Et alors, je peux plus parler de l'événement, je suis dans un état qui peut être un état de terreur, je deviens muette. Donc ça, c'est très intéressant quand on se rend compte que juste on ne peut pas, quelquefois, juste parler. Cette zone-là se désactive et donc il va s'agir de chercher des détours, des chemins. Et donc, ça arrive quand même bien souvent que, en effet, le contexte d'un entretien médical soit pas forcément le plus propice à faire trouver le chemin qui va pouvoir recontacter petit à petit cette capacité de parole. Enfin, il y a le fonctionnement exécutif. Ça, c'est plutôt ce qui se passe dans notre cerveau gauche. Les autres aussi, d'ailleurs, se passent un petit peu dans le cerveau gauche. Donc, le fonctionnement exécutif, c'est la planification, la prise de décision, la correction des erreurs, la flexibilité mentale, la capacité à faire face à des situations nouvelles et aussi à faire face aux dangers. Cette zone-là, on observe qu'elle est beaucoup moins active, voire désactivée par rapport à des cerveaux qui sont donc pas traumatisés et qui et donc cette capacité-là, elle est vachement plus permanente, en permanence active que dans un état de psychotrauma. Et puis il y a aussi la fonction de l'interoception. L'interoception, c'est la perception de l'état interne du corps. Elle repose sur la perception de signaux en provenance des viscères, comme le cœur, le système gastro-intestinal d'une part, mais aussi des systèmes respiratoires et urinaires. Par exemple, la sensation de vessie pleine, ou les sensations de faim, les sensations de froid ou de chaud, la chair de poule pour exprimer le bonheur ou la peur. Et quand tout fonctionne bien, notre corps nous envoie des signaux pour exprimer des émotions ou des informations qui implique pas forcément des émotions d'ailleurs, et pour nous permettre de prendre des décisions. Donc le psychotrauma, c'est pas du tout le seul moment ou le seul état où ces fonctions, elles sont altérées. Mais ça permet de un petit peu comprendre spécifiquement cet état-là, ce qui se passe en fait, ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on peut lire ? Ce qu'on observe aussi, c'est ce qui est hyperactivé. Et alors, c'est une zone du cerveau émotionnel, la zone particulière de la peur, souvent. Et donc, ce qui fait que je me retrouve à interpréter le monde particulièrement à travers de mes émotions et beaucoup moins à travers de ma cognition et de ma capacité d'analyse. Et ce qu'on observe aussi, enfin, c'est ce système de filtration qu'on a toutes et tous. Et ce système de filtration, il marche pas bien. Alors, c'est un système de filtration qui me permet de trier les infos non pertinentes, par exemple. Et pour, ça me permet de rester concentré sur le fait que là, je suis en train de parler à la radio. Et même s'il se passe des choses autour de moi, eh bien, j'arrive à rester focal, quoi. Mais ça arrive aussi, par exemple, en soirée, que c'est hyper difficile de se concentrer sur une discussion. Il y a 50 000 infos, 50 000 états, 50 000 bruits. Et quand on est dans certains états, et notamment dans certains états de fragilité, c'est vachement plus difficile de rester concentré sur... De rester concentré sur ce qu'on estime être ce qu'on est en train de faire, quoi. Voilà.
J'ai roulé vite pour être à l'heure à l'émission. Et là, je me sens un peu... Je respire pas bien. Je me sens stressée. En fait, c'est quoi le stress, Chico?
Très bonne question, Jojo. Le mot stress désigne en fait plusieurs choses en même temps. Souvent ce qu'on appelle stress, donc il y a l'agent qui provoque la réaction, le facteur extérieur, qui peut être aussi un facteur intérieur, par exemple une décision ou une pensée, mais en tout cas cette chose qui provoque la réaction en elle-même, et l'état dans lequel on se retrouve suite à cette réaction. Donc en santé, le stress, donc cette réaction qui permet l'adaptation aux différentes conditions, externes ou internes, c'est pourtant un facteur qui est protecteur de l'organisme à la base. Ça participe à différents systèmes qui sont destinés à préserver nos fonctions vitales et par extension nos organes vitaux et notre cerveau. Et en fait, ce qui devient compliqué, c'est quand le stress, il dure en continu ou de façon chronique et quand on est par exemple très anxieux. Parce que la question, c'est qu'est-ce qui se passe quand on stresse? Et donc, il y a plusieurs hormones du stress, mais la principale hormone, c'est la cortisol. Quand on stresse, le cerveau envoie un signal qui déclenche une réaction en chaîne. L'info arrive jusqu'au cortico-surrénal. Et là, les glandes surrénales produisent du cortisol qui inonde tout l'organisme pour donner un maximum d'énergie à l'organisme pour fuir ou pour se battre. Et puis, si tout va bien, le cortisol renvoie un message au cerveau en passant par des neurotransmetteurs pour l'informer que la quantité de cortisol présente dans le corps est suffisante. Et alors, le cerveau dit au surrénal, c'est bon, plus besoin de cortisol, la production s'arrête, et alors, on se calme à nouveau.
Il y a beaucoup de gens qui ont eu des accidents de voiture. Pourtant, ça se passe pas pareil pour tout le monde. Qu'est-ce qui est différent?
Eh oui, qu'est-ce qui est différent? Eh bien, ce sont nos réactions. On ne réagit pas toutes et tous pareil, et donc certaines personnes se rétablissent d'un événement douloureux, d'un choc ou d'un moment stressant, et d'autres se retrouvent à dealer avec des états de détresse difficiles à traverser. C'est une question de personne, mais c'est aussi une question de moment de vie. Une même personne peut avoir différentes réactions en fonction du moment de sa vie et de ses 50 000 facteurs différents. Ce qui se passe au niveau du système nerveux et hormonal, c'est quoi? Ce vaste réseau de communication dans le corps n'est pas tout le temps aussi fonctionnel. Et donc, il y a plusieurs causes à ça. Une des premières causes, des causes les plus anciennes en fait, c'est les dernières semaines de la vie intra-utérine et les deux premières années de vie. Parce que c'est le moment intense de la formation des circuits neuronaux. Donc quand une personne qui porte le bébé produit beaucoup d'hormones de stress, en fait le bébé les avale. Et ça interagit sur ces circuits neuronaux en cours d'élaboration. Et donc un bébé de 0 à 2 ans, il va être très impacté par ses propres états, et donc des possibles négligences ou maltraitances, parce que ces mêmes circuits neuronaux vont être extrêmement impactés, ce qui va impacter les réponses du système et donc la production d'hormones, etc., etc. Petit arrêt sur cette question des négligences et des maltraitances chez les enfants, qui serait en fait un problème de santé publique numéro un, selon certaines et certains chercheuses. Parce qu'il y a une corrélation énorme. Donc là, je vais vous balancer plusieurs pourcentages entre ce qui est vécu dans l'enfance et des problèmes de santé qui sont vécus par la suite. Par exemple, ça serait à l'origine de 54% des dépressions, de 58% des tentatives de suicide, de plus de 71,5% des addictions à la clope, aux drogues, à l'alcool, et également de 60% des agressions sexuelles et des violences domestiques. Voilà, petit arrêt.
Et ouais, je voudrais dire à cet endroit-là que l'idée, c'est pas du tout de culpabiliser les mères qui sont stressées. Enfin, qu'en fait, dire que c'est un problème de santé publique, c'est aussi inviter à, oui, qu'on fasse tous gaffe ensemble et que, évidemment, une personne qui a une charge de travail de ouf, qui doit gérer plein de travail invisible et tout, et qui, enfin, voilà, l'idée en tout cas, c'est pas de rajouter de la culpabilité sur des personnes qui en ont déjà, c'est comment on se coltine collectivement cette question-là, quoi.
Exactement. Merci pour ce petit arrêt. Enfin, merci pour ce... cette info. Enfin, merci. Voilà, quoi. Et du coup, toujours sans volonté de culpabilisation, il y a aussi des facteurs génétiques et épigénétiques parmi nos gènes. Il y en a certains qui s'activent et d'autres qui ne s'activent pas. Donc, il y a cette espèce de loterie génétique. Et puis, il y a cette question de l'épigénétique. Par exemple... récemment, il y a eu un gène qui a été identifié, qui s'appelle le gène FKBP5. Et lui, quand il est activé, il produit une enzyme du même nom qui prend la place de la cortisol dont on parlait tout à l'heure. La cortisol, elle vient se caler sur la synapse pour dire au cerveau « Ah, il y a telle quantité de cortisol dans le corps ». Et là, la cortisol, elle ne peut pas aller se mettre sur la synapse parce que, en fait, il y a l'enzyme FKBP5 qui s'y est mise à sa place. Et dans cette situation, alors le corps ne reçoit plus l'info. Comme quoi, ça y est, stop la cortisol. Et donc, le cerveau continue d'envoyer l'info comme quoi il faut en produire. C'est cette surproduction qui épuise le corps. Et donc, le corps qui se déséquilibre petit à petit à cause de cet état de stress qui dure trop longtemps. Il y a un autre gène dans le même style, lui. Donc lui, on observe plus précisément qu'il dort, il se réveille, il se rendort, selon les expériences qu'on vit. Les expériences douloureuses le réveillent et il se met à produire son enzyme qui s'appelle MAOA. Et le gène, il s'appelle aussi MAOA. Et donc lui, son truc, c'est de manger les hormones comme la sérotonine et la noradrénaline. C'est celles qui nous font ressentir de la joie, du bonheur, ces états-là. Et donc, vu qu'il les mange, elles n'ont pas le temps de délivrer leur message à notre corps. Et donc, ce qui est par contre une bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on vit des expériences chouettes, MAOA, ce gène, il a tendance à se rendormir. Quand je parle de ces gènes au singulier, c'est pour faciliter le langage, mais en fait, chacun de ces gènes existe en plusieurs.
Mais alors, Chico, avec tout ça, tout ce qui nous arrive, comment est-ce qu'on s'en sort ?
Comment on s'en sort, c'est comment on fait, c'est une très bonne question. Il y a des recherches universitaires sur des enfants traumatisés à un moment donné. Et donc, ces chercheuses ont remarqué qu'il y avait toujours un groupe d'enfants qui semblait moins affecté, qui se rétablissait plus rapidement ou qui en sortait plus fort. En un mot, ce groupe d'enfants faisait preuve de plus de résilience. Donc, la recherche, elle s'est concentrée sur les conditions de la résilience et elle a abouti à ce qu'on a appelé les facteurs de protection. En gros, ces facteurs de protection, ils peuvent être divisés en 8 catégories. À partir de ces catégories, les personnes peuvent définir des activités plus concrètes pour restaurer l'énergie et renforcer la résilience, ce qu'on appelle les stratégies de résilience. C'est des catégories que j'ai trouvées dans un petit livret d'une pote d'une formation sur la résilience émotionnelle. Et donc, je les ai trouvées un peu bien récapitulatives. Donc, il y a les fondamentaux, les rythmes, la routine. Il y a les temps seuls, les temps avec les autres. Le développement cognitif, le soin, le sens, la créativité et la nature. C'est 8 facteurs qui facilitent les processus de rétablissement, les processus de résilience ou de la recherche d'équilibre pour dealer avec, avec la souffrance, les douleurs, les instabilités, etc. Donc, dans... Le premier, là, le fondamentaux rythme routine, ça parle de comment on mange, comment on dort, les temps de repos, les soins médicaux de base, comment on se met en sécurité et ces espèces de repères qu'on a dans notre vie quotidienne qui créent un rythme de vie et des routines. Dans les temps seuls, il s'agit des temps où on peut faire off, mais ça peut être aussi des temps pour prendre conscience de qu'est-ce qu'on vit, d'essayer d'être honnête avec soi-même pour capter en vrai qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je ressens essayer de s'autoriser à être dans les états dans lesquels on est. Et les temps seuls, c'est des temps où ça donne de l'espace pour pouvoir se regarder. Le temps avec les autres, c'est des temps du coup où il peut y avoir... Tout ça, c'est des exemples hein, que je donne. Forcément, chacun y met vraiment ce qui lui cause le plus, quoi. Donc dans les temps avec les autres, il y a ces temps de rencontre, de connexion. Ça peut être des temps pour célébrer, ça peut être des temps pour faire la fête, ça peut être des temps pour juste tchatcher, se détendre. Dans le développement cognitif, il y a le fait d'apprendre, de faire des nouvelles choses, de découvrir. Ça, ça participe aussi. Dans le soin, il peut y avoir la boxe qui permet de soutenir le corps dans ses connexions nerveuses, par exemple. La boxe et le tai chi, souvent on dit le yoga. Ça, c'est des choses qui sont super pour soutenir les régulations. Mais il peut y avoir aussi de la co-écoute, où il peut y avoir des thérapies psychocorporelles, il peut y avoir aussi des grosses chats, des gros débriefs avec les potes, ça peut peut-être aussi rentrer dans les soins, des outils d'hypnose, ou alors utiliser de l'huile essentielle de géranium quand on est en train d'avoir des blessures au cœur, ou alors sentir des bonnes odeurs, c'est parce que l'odorat, il vient aussi stimuler et soutenir le système nerveux. Le sens, quand je parlais du sens, c'est chercher sa propre forme de spiritualité. La signification qu'on donne aux choses. Comme tu l'as dit, Yuri, pas mal au début de l'émission. Créer ses propres rituels pour marquer les moments importants, etc. Enfin, il y a la créativité, des espaces pour écrire, chanter, dessiner ou autre. Et enfin, il y a passer du temps avec, donc là, ce qu'ils appellent la nature, donc ça peut être les non-humains, ou voilà, s'ouvrir à ce pouvoir-là que ça peut faire d'être dans la forêt. Et puis aussi être sensible aux fleurs, aux animaux et aussi aux saisons. Faire gaffe aux saisons, des fois ça nous impacte. Prendre en compte tout ça dans comment on existe et à quoi on donne de l'importance.
Tachycardie, t'as pris cher, dit. Tais-toi, j'essaie de respirer, d'espérer retrouver mes esprits. Surprise de paniquer, de vouloir appliquer dans un endroit familier. De peur de m'humilier, humide de sueur, transi de peur. Trop vite le cœur bat, le moral au plus bas. Faut pas que je capote, faut que je trouve à appeler un pote. Faut pas que je chie dans mon froc, cerveau poqué. Pourquoi ça m'arrive là au moment où je suis loin de chez moi? Je vais chier là, mais je sais pas. Ouvrez la porte, me matez pas de la sorte. Je voudrais être invisible si possible, me téléporter. Putain de sortie avortée alors que j'avais tout mis de mon côté. Mais c'est ton spectacle que je me donne. Putain, je mérite des claques à trop si conne. Bonne à mettre à l'HP, mais je veux ni être dehors, ni être enfermé, ni être mort, ni dans mes pensées. Je suis pas loin de l'infarctus et je sais plus si je suis en bout de mes doigts. Je suis fou, tu vois, je suis fou, tu crois. Je suis fou, tu vois, je suis fou, tu crois.
Flipper de l'avenir, avoir peur de vieillir, ne pas vouloir mourir, être courageux et sévir, refuser de servir, de tempérer et d'obéir à un système fascisant, tout ça en déprimant, prendre un calmant, penser que c'est pire qu'avant, ne pas faire d'enfant, enfermé dans nos drames personnels, y a du pourri dans nos cervelles, je me mets à avoir peur du monde, je me dis qu'on va me régler mon compte, ça sera jamais notre tour, j'en ai perdu mon humour, je prends mes jambes à mon cou, je cours.
C'est la crise de panique.
Panique!
Ouais. T'auras plein d'anxiolytiques.
C'est la crise de panique.
Ouais. Pense aux problèmes climatiques.
Tu feras une crise de panique.
Pense aux crises de panique.
Tu feras une crise de panique.
T'assures ce nouveau chic. Fais une crise de panique.
Peur d'être seul, plus aimer sa gueule. Peur du vide, mal de bide. Peur du néant et se réveiller le cœur battant. Battant par peur de la journée, que des merdes d'une vie affrontée. Faire du déni, pas toujours réussi. Pas faire ses papiers avec l'excuse qu'on va tous crever. Pourquoi se faire chier avec des obligations qu'on peut annuler. Remplir son cerveau de séries d'infos et de ragots. Aller jusqu'à vouloir un boulot.
Caricature de trentenaire, fatiguée par la colère, qui se laisse aller mélancolique et déprimée. Je crois plus en rien, je trouve peu de trucs bien. Petite crise existentielle d'occidental privilégié, mon excuse principale pour tout lâcher. Sous l'emprise de mes angoisses légitimées, d'où sortent tous ces connards, je ne veux plus les confronter. Ce monde en tout cas, je veux le voir s'écrouler. Le drame drame dans tout ça, c'est que je me sens pas équipée. Je peux pas m'évader, je peux rien affronter. Flipper d'y passer, je veux juste m'annuler.
C'est la crise de panique.
Panique.
Ouais. T'auras plein d'anxiolytiques.
Fais une crise de panique.
Ouais. Pense aux problèmes climatiques.
Tu feras une crise de panique.
Pense aux crises de panique.
Tu feras une crise de panique.
Je t'assure, c'est le nouveau chic.
Fais une crise de panique.
Déjà plusieurs infarctus, embolie pulmonaire, éclatement d'ovaire, fracture du cubitus, dû à un cancer des artères, allergie mortelle, au matériel, un travail que je dois faire, probable fin de la terre, à cause d'un monstre astéroïde, hémorroïde, hémorragique, expert des sites internet médicaux qui t'envoie direct à l'échafaud.
Adieu, adieu.
Je pleure en regardant mourir les ours polaires. Je suis pas assez cynique pour m'y faire. J'allume la lumière, je m'éclaire au nucléaire. Je me demande comment il sera mon cancer. Je suis sûr qu'il n'y aura plus de TQ. À quoi ça sert de lutter si on est foutu? Ça tourne dans ma tête et je dors pas. J'ai une pointe au cœur et je meurs pas.
Ouais, c'est la crise de panique.
Panique.
Ouais. T'auras plein d'anxiolytiques.
C'est la crise de panique.
Ouais. Pense aux problèmes climatiques.
Tu feras une crise de panique.
Pense aux crises de panique.
Tu feras une crise de panique.
Je t'assure, c'est le nouveau chic.
Fais une crise de panique.
Vous avez entendu Crise de panique de Grâce et Volupté Van Van, qui est un super groupe que vous pouvez aller écouter sur Bandcamp.
Et maintenant, à un micro-trottoir. La première question qu'on pose, c'est est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre vie de vous sentir, on pourrait dire, en souffrance psychique ou en détresse?
Oui, bien sûr, ça m'est déjà arrivé dans ma vie, oui.
Et comment vous faites pour sortir de ces moments-là quand ils arrivent?
Eh bien, moi, ma meilleure thérapie, c'est le sport.
Alors, qu'est-ce que vous faites comme type de sport?
Alors, je fais du fitness, je fais du vélo et de l'aquagym.
Et ça, ça vous aide à maintenir un état de santé mentale
Oui, vraiment. C'est mon anti-stress, vraiment. Ouais. J'ai besoin de ça pour me sentir bien. Ouais.
Et est-ce que vous avez déjà eu, par exemple, recours à des professionnels de la santé mentale, des psychologues?
Et non. Non, je me suis toujours sortie toute seule.
Ouais. Grâce au sport.
Grâce au sport et grâce à la force de caractère que j'ai la chance d'avoir.
Vous pensez que c'est une histoire de force de caractère quand on déprime ou quand on va pas bien, c'est...
Je sais pas, en fait. Je sais pas. Je peux pas vous répondre, là. Je sais pas.
Qu'est-ce qui fait que des fois, on a des moments de craquage, de crise
Je pense que ça, c'est l'être humain. Hein. On peut pas être à 100%. Hein.
Mais qu'il y a des forces de caractère, il y a des caractères qui...
Qui arrivent peut-être mieux à supporter que d'autres, mieux à encaisser. Ça vient aussi de son enfance, aussi, je pense.
Et vous diriez que vous avez eu suffisamment d'outils dans l'enfance pour affronter, pour avoir de la force de caractère, comme vous dites?
Je pense pas à 100%, mais je pense que ça aide quand même.
Ouais. Et du coup, on demande aussi aux gens, parce que souvent on se sent seul quand on se sent déprimé, et on se dit, ben des fois, il y a même des personnes qui pensent à, par exemple, se suicider, en finir avec la vie. Est-ce que ça, c'est des choses qui vous ont déjà traversées?
Oui. Quand j'ai eu une séparation du père de mon enfant, oui. Je pense qu'il y a des moments où on plonge, où on voit noir, c'est sûr.
Et comment vous avez fait pour traverser ce moment-là?
Grâce à mon fils qui était petit. Je pense qu'on s'accroche toujours à quelque chose, ou la famille, ou ses enfants.
De rester en vie pour lui.
Voilà, exactement. Oui.
Et aujourd'hui, du coup, vous diriez que vous êtes en vie grâce à quoi? C'est dur comme question.
Hein. Alors là, grâce à quoi je suis en vie? Grâce à la vie, qui est quand même belle malgré tout, même si on a beaucoup de pépins dans notre vie, on a quand même des... La vie est belle quand même malgré tout, hein. Même si elle est très difficile parfois, hein, avec des décès proches, avec... Non, elle est quand même belle, la vie, elle mérite d'être vécue quand même.
Ça vous... Du coup, même ces moments-là, ces moments où vous avez parlé de la séparation...
Oui, il y a des moments très durs dans la vie, hein, les décès, les séparations amoureuses, affectives, il y a des séparations très difficiles dans la vie, mais finalement, on arrive toujours tout à surmonter quand même.
Dans ces moments-là, vous avez réussi à vous dire « je veux tenir, j'y arriverai quoi ».
Ben, on ne te le dit pas, on le fait parce qu'on n'a pas le choix. C'est où on craque et justement on a recours avec des cachets ou en psychiatrie ou on attaque la vie, quoi, on y va. Quoi. Mmh. On n'a pas le choix.
On l'entend, la vie n'est pas toujours simple. Et parfois il faut bien tenir et encaisser. Et la question de l'hôpital psychiatrique ou de la médication est souvent taboue. Mais parfois, du fait de plein de choses... On n'a pas toujours les moyens du déni, on n'a pas toujours les moyens de tenir bon, on n'a pas toujours les moyens de se débrouiller tout seul ou avec ses amis. Et dans certains moments, peut-être, ça fait sens de recourir à des professionnels, sans pour autant abdiquer tout contrôle sur notre vie.
va vous parler de Barge, qui est un livre qu'a écrit Héloïse sur les bouffées délirantes qu'elle a vécues pendant 10 ans, entre 2000 et 2010. Et dans ce livre, elle a utilisé tous les carnets qu'elle a écrits pendant ce temps-là. Des lettres aussi lui ont écrit ses parents, ses amis et les rapports des psychiatres. Elle utilise les lettres et puis elle rajoute un peu de contexte aussi sur ce qui se passait à ce moment-là, avec un peu de recul. C'est un livre vraiment déroutant, passionnant, et vous allez en entendre des extraits au milieu de l'interview.
Est-ce que tu pourrais parler un peu de comment tu t'y es prise pour écrire le livre? Comment tu as utilisé les carnets que tu avais écrits?
Eh ben, dans mon délire, comme j'étais le messie, et à un moment ou un autre, j'allais écrire la nouvelle vie. Je gardais tous mes écrits au fur et à mesure. Mes écrits, mes dessins, mes crabouillons, ça s'était empilé. J'avais stocké ça dans un coin chez mes parents. Et même après, quand j'avais pris la distance avec le contenu de mon délire, je m'en étais pas débarrassée pour autant. Si bien que quand mon compagnon s'est lancé dans son projet de film sur lui, son vécu, donc des tocs, de la dépression, j'ai saisi un peu l'occasion pour me lancer aussi dans le récit de mon histoire. Vraiment dans l'envie de faire comprendre ce que c'était qu'être le Messie et d'entendre des voix. Et du coup, je suis allée mettre le nez dans tout ce matériau de base, où il y avait aussi des lettres de proches, des cartes postales, des trucs que j'avais gardés. C'était l'occasion aussi pour moi, du coup, d'aller demander mon dossier médical en écrivant au directeur de l'hôpital. Tout le monde peut le faire, c'est assez simple. Par contre, il faut payer le photocopie, mais bon, c'est bon à savoir qu'on peut entrer dans cette démarche-là. Moi, ça m'a aidé notamment pour reconstruire une chronologie, parce que dans mes carnets, il y avait quand même des ellipses, je datais pas forcément tout, je suis assez bordélique de nature, donc ça a été un bon appui, la chronologie médicale, on va dire, des temps d'hospice et tout ça, pour reconstruire un peu le fil. Et c'est en ordonnançant tous ces matériaux, tout le temps de l'écriture, moi j'ai pu faire, on va dire, des résidences, ça, chez des potes ou dans différents lieux, où je partais pour une semaine avec mes carnets et je faisais le tri dans tout ça. Ça a été un processus assez lent, mais j'ai pu le faire au rythme qui me convenait, donc ça, c'était chouette.
La première voix que j'entends, elle m'appelle Dja. Dja, comme le dieu du rastafarianisme. Ça m'impressionne. Dans ma famille, il y a 5 générations de pasteurs d'un côté, un catholicisme bien pensant de l'autre, et nos parents nous avaient plutôt appris à nous tenir loin de la religion. Hormis ce Dja, pendant longtemps, j'ai pas de voix.
Pourquoi est-ce que c'est important et ça fait du bien de raconter son histoire?
La plus grande intensité de mon vécu délirant, c'était au début des années 2000. Moi, la première fois que j'ai entendu des voix, la seule référence que j'avais, c'était Jeanne d'Arc. Parce que je pense que médiatiquement, etc., j'avais pas eu trop l'occasion de tomber sur des témoignages de personnes entendant des voix. Dans ma famille, il n'y avait pas eu particulièrement des gens qui avaient été confrontés à la psychiatrie, etc. J'ai eu envie, moi, de pouvoir apporter ma contribution à la connaissance de ce que peuvent vivre les fous folles. Je me suis lancée là-dedans. Ça a eu, bien sûr, un rôle d'abord dans mon entourage, quoi, parce qu'avec mes parents, on n'était pas forcément revenus sur tous les détails de ce que j'avais traversé. C'est des gens assez pudiques. Donc, c'était l'occasion un peu de jeter le pavé dans la mare, comme ça, et de revenir 10 ans après sur ce que j'avais traversé. Et puis forcément, c'est aussi un enjeu de reconnaissance sociale, quoi, de dire moi, ce que j'ai vécu, ça a de la valeur. Je veux le dire avec mes propres mots et sans forcément chercher à satisfaire ni des attentes médiatiques, ni des attentes médicales, etc. Et il y a un truc qui est assez libérateur là-dedans. Et aussi pour, du coup, rencontrer d'autres personnes qui ont des vécus proches, faire du commun, du coup, et aussi constater à quel endroit on peut être différent, pourquoi, quelles sont nos visions et compréhensions de ce qu'on traverse. Pour ça, c'est sûr que j'ai eu beaucoup de chance avec Barge de pouvoir faire aussi des tournées dans des GEM, des hôpitaux de jour, des cafés asso, des milieux plus militants, de faciliter la rencontre, permettre aussi que les gens aient l'occasion de s'exprimer sur ce qu'ils peuvent vivre ou ce que vivent leurs proches aussi. Y a cet enjeu de pouvoir un peu libérer les langues et les oreilles, quoi. Avec l'objectif final qui est un peu fou, mais moi, ce qui est quand même qui me porte, c'est que on soit plus à même de réagir quand quelqu'un dans notre entourage va pas bien, dégoupille, etc. Et la première étape, c'est d'avoir l'habitude d'en parler sans trop de gêne. La deuxième, c'est de se donner des outils. Et la troisième, c'est de savoir vers qui se tourner, comment faire. Et après coup, après la crise, l'importance du débrief ensemble, de voilà, toutes ces étapes-là, c'est un chemin assez long et souvent on n'est pas conscient quand tout va bien qu'on va devoir se coltiner tout ça. Comme pour tout autre événement de la vie douloureux, il faut pouvoir se l'empoigner quand ça va bien, quoi.
Avril 2002. Tiens, soyons honnêtes, j'ai la possibilité de m'introduire. Dois-je mûrir la phrase ? Dans le mental des gens, en le formulant d'une phrase appropriée, correspondant à moi, à leur ego, leur chemin de vie, leur habilité à déjouer le sort peut-être morne de leur vie, à renaître en eux pour m'excuser de les affubler de my own life ? Quand cela touche-t-il au délire psychique ? Dois-je les nourrir d'images tierces ? Par exemple, mon champ de vision, l'illustration de mon verbiage, la critique de la représentation que je m'en fais. Les saouler d'interactivité jusqu'à plus soif et capitulation. Besoin impérieux. Ne pas faire chier avec un cycle rémanent de groupuscules d'actions futiles. Envie de pisser, de boire, de baiser, et les hésitations contingentes qui te retiennent et forment des paliers. Ouais, voir tes doigts, j'en ai marre. Sincèrement, qui puis-je ? J'ai aucune envie d'en changer, je vous dirais bien démerdez-vous et allez voir ailleurs. Il pue le tabac. Or, étant dans l'ignorance la plus complète quant au mécanisme sous-jacent de cette histoire, je vous propose l'amnésie quotidienne. Je ne suis pas maîtresse de mes actes. Or, si tous sont interprétés selon les bons et mauvais vouloirs de monsieur et madame X, on est mal barré. Assez vite, à force de voix qui râlent notamment, je comprends que cette foule de spectateurs exigeants en a marre des monologues sentencieux, et que si je veux maintenir l'audimat, il faudra lui offrir du divertissement, du sexe si possible. C'est loin d'être confortable, la perte de mon intimité, la mise à nu permanente, les voix de mecs inconnus qui commentent mes fesses, mes seins. Alors parfois je m'habille les yeux fermés. Je ne regarde pas mon pubis quand je me suis après avoir pissé et j'évite mon profil dans les miroirs. Je fonds un jour en larmes en réalisant que les pédophiles du monde entier s'excitent quand je rentre dans la salle de bain et que ma petite sœur de 10 ans y est nue. Je tente tant bien que mal de faire avec la situation. De toute façon, je n'ai guère le choix. J'essaye encore et toujours de rationaliser.
T'as parlé de j'aime ?
Ah oui, oui. J'aime ces groupes d'entraide mutuelle. Pour faire court, ça existe depuis 2005. C'est des assos qui ont un local, alors en ville ou à la campagne, mais où peuvent se rendre des personnes en sortant d'HP notamment. C'est un endroit un peu tranquille où on peut être assez confiant du fait que les gens qu'on va rencontrer ont des troubles comme nous et que du coup on n'a pas à craindre leur jugement, etc. Et donc c'est des lieux pour faire des activités, rencontrer des gens, faire des sorties à plusieurs, etc. Et les dynamiques des GEM sont très variables d'un lieu à l'autre. Il y a le site du Psycom qui est un annuaire des GEM qui est assez pratique pour savoir ce qui existe dans votre coin.
Est-ce que toi, tu aurais des conseils à donner à des personnes qui doivent accompagner, des personnes qui sont peut-être déjà en crise ou qui risquent d'en faire une ?
Du coup, les premiers signes, quand la personne, elle dort plus beaucoup ou elle a une manière de communiquer inhabituelle, ou qu'il faut mettre les pieds dans le bain, prendre ce risque-là, de dire, oh là, est-ce que t'es pas en train de... Est-ce qu'il se passe un truc particulier ? Est-ce que tu perds... je m'inquiète pour toi, être aussi, le plus transparent possible sur ce qu'on ressent. Après, si on est déjà dans un contexte un peu plus avancé, dans l'idéal, il faut s'assurer que la personne dorme, donc, parce que vraiment, quand on commence en plus à perdre le sommeil, il y a une espèce d'escalade là qui se fait, qui majore les troubles, pour faire simple. Et du coup, si dans l'idéal, il y a un médecin traitant, un peu de confiance, qui peut prescrire un hypnotique, ou si après on est un somnifère, quoi, si après on est habitué sinon aux teintures mères, la valériane par exemple, ça permet quand même aussi de caler le sommeil un peu. Et donc ouais, médecin traitant pour le premier recours, si la personne veut pas consulter en psychiatrie, ça va être ça, somnifère et éventuellement anxiolytique, pour arriver à poser le... le trouble de la persécution, les voix, le délire. Je parle vraiment sur ce versant-là. C'est encore autre chose quand il s'agit de noirceur et plus d'un versant dépressif ou quoi. Avant tout, communiquer, quoi. Pas laisser... Moi, on m'a beaucoup laissé partir dans mon délire toute seule, quoi. Parce que les gens savaient pas comment me parler, osaient pas trop me faire porter la charge de leur inquiétude, etc. C'est un peu délétère comme attitude. Il y a aussi la question des consos, et ça c'est des questions qu'on devrait pouvoir s'empoigner quand ça va bien aussi, sur le cannabis notamment, parce que ça fait bien flamber une bonne partie des gens qui ont un terrain un peu maniaque comme ça, un cerveau qui a tendance à interpréter, faire des liens, être dans le jeu de mots et tout ça. Il y a un truc qui peut être assez jouissif, mais qui, sur un versant plus problématique, peut amener à de la parano, etc.
Mais toi, tu t'en rends pas compte forcément sur le moment?
Eh ben non, ouais, c'est assez classiquement comme ça qu'on distingue la psychose et la névrose, dans l'idée que quelqu'un qui est névrosé, il se rend compte que ça va pas, et quelqu'un qui est plus sur un versant psychotique, il s'en rend pas compte. Moi, quand c'est tellement énorme ce qui t'arrive, tu vois, quand moi, du coup, j'étais le messie... Tu quittes les références habituelles. Le messie, forcément, il en a rien à foutre s'il dort ou pas. Les enjeux sont beaucoup plus grands que son sommeil, tu vois. Il y a un truc qui peut paraître mesquin. Quand on te ramène à ton individualité, à tes besoins corporels, etc., t'es vraiment au-dessus de tout ça. Mais ce que tu mesures pas quand t'es délirant, c'est le comment tu vas pouvoir redescendre et t'arrêter. Et souvent, malheureusement, c'est la psychiatrie qui vient faire un peu ce filet dans lequel tu te prends. Et comme, en général, dans les services d'admission et de crise, ils mettent des médocs quand même à haute dose pour bien casser le délire, là, c'est un crash, quoi. Et c'est assez douloureux et tout ça. Donc, il faut avoir ça en tête quand on a un pote qui commence à partir un peu en vrille. C'est que ça peut aller loin et ça peut ne pas être rattrapable par le groupe de pairs ou l'entourage immédiat, quoi. S'il n'y a pas eu un premier épisode. Quand il y a eu un premier épisode, une première hospite, la personne, elle a quand même si elle est en train de repartir, elle a, dans le délire, quoi, elle a des références. Elle se rappelle de l'hosto, elle se rappelle du médoc. Voilà, c'est ramener un peu de réel, c'est aussi le rôle des proches, quoi.
Dimanche 5 janvier au soir. Dieu m'a oublié. Pas de nouvelles depuis une année. Si l'herbe est vectrice, les humains en ont pris l'hélice. Les joints se jouent au dé. Qui tiendra la dragée haute du pet sexué, jouissance réelle des râlements de gorge et des cris entamés, avec Steph à Mulhouse, avec X à Strasbourg, par des ouailles d'hommes associés, dans ma vie immiscée, inconnue en surcharge, se voulant commandant de bord. Cerveau porteur, existence en couveuse, attendre l'hypoglycémie pour se glisser dans une peau de miraculé. Attente, station. La déesse père, l'an se nourrit. Comment décrire les différents phénomènes qui habitent mon corps en l'absence de vocabulaire scientifique mis à disposition ? Et se rappeler les différentes hypothèses par moi émises pour y trouver une quelconque rationalité. J'ai été, jusqu'à croire, qu'on m'avait cloné et qu'on me dirigeait, ma conscience et mes sensations, depuis un ordinateur. Je crois être devenue complètement, entièrement transparente, dans le sens où l'on perçoit mes pensées, les images que mon cerveau m'envoie, les gestes que je m'apprête à faire, les mouvements organiques de mon corps, envie de pisser qui pointe, et j'obtiens en retour des pulsions électriques dans le corps, genre battement de sang, mouvement des muscles, des ions dans le regard, illumination précise d'un point dans l'espace m'environnant, sur une lettre d'un livre, sur la couleur d'un mur, border blanc. Éclairant d'un sens particulier ce que je vis dans l'instant, geste effectué de manière involontaire, phonème ou phrase entière formulée contre mon gré, et voix calquée sur des bruits m'entourant à plus ou moins grande distance, allant jusqu'à occuper mon cerveau ou ma bouche, une forme de télépathie intrigante et multiforme. Impression que celle-ci est aussi visuelle, et que l'on voit ce que je vois. Et que l'on n'est à même de guider mon regard pour faire des plans dignes d'intérêt. Parce qu'il est vrai que j'oublie souvent cet intérêt visuel et que les spectateurs doivent souvent s'emmerder.
Ouais, il y a beaucoup à dire et à penser. Et en même temps, faut pas que ça fasse trop peur. Parce que la folie, ça peut rester quelque chose de très... Moi, j'en garde un souvenir fort de mes états d'intensité. Ça fait traverser des questions existentielles qui traversent tout le monde. De qu'est-ce qu'on fout là comment c'est possible d'adhérer à la manière dont les humains ont choisi de s'organiser pour vivre? Qu'est-ce que ça veut dire être un terrien dans le cosmos et Dieu dans tout ça? Il y a plein de questions qui sont ultra stimulantes et qui, dans leur expression, peuvent être très belles et tout ça. Mais il y a aussi tout ce versant assez concret et bordélique et délétère et des gens qui meurent, hein, je veux dire. C'est aussi des années d'espérance de vie en moins quand les personnes n'ont pas la chance de pouvoir être bien accompagnées, quoi. C'est pas de la tarte, mais c'est quand même bien accompagnées, quoi. C'est pas de la tarte, mais c'est quand même un beau banquet.
Celle qui se prend pour Yod, elle m'énerve.
Ceux qui connaissent les caresses, j'ai des carences, plus rien à déclarer. J'ai des carnets, j'ai des cahiers où j'ai déjà tout détaillé de la tristesse et la souffrance. La nuit, je rêve que mes coups blessent. Le jour, je contiens ma violence et ma prouesse. Dis-moi où naissent les conquérants, les gens heureux, les chiens errants, sans palmarès, le dernier rang, c'est ce qu'on nous laisse. L'œil féroce et la tête basse. Vivre, mais à quelle place? Mordre la même corde jusqu'à ce qu'elle casse. Pour la tendresse et la patience, je n'ai plus la souplesse. Les sentiments partent, la haine reste. Mais où est ma bouée? Si vous pouvez me la trouver, balancez-la dans les goûts. Je suis en train de couler. La folie va m'avaler. Je suis harcelé par mes doutes. Ils me retiennent par le cou et la corde est nouée. Et si vous pouvez me la trouver, balancez-la dans les bouches, je suis en train de couler. La folie va m'avaler, je suis harcelé par mes doutes. Ils me retiennent par le cou et la corde. Et
je dois
m'ouvrir au monde, oh. Savoir me vendre,
oui.
Trouver mon ombre,
oui.
Vieillir ensemble, obéir au doigt, ma carte de membre, tenir mon rôle avant que la tombe m'attende. J'aurais besoin d'apprendre comment sourire, délaisser la pénombre, rejoindre le bal, devenir un modèle, résister à l'envie de répondre quand je tiens à scalpel, que la folie m'appelle. 10 000 façons de se détruire, j'ai pas choisi laquelle. Dans ma cervelle, je laisse parler entre elles. Mes angoisses émanant seraient telles que je dois être un clown dans une vie parallèle. J'ai l'impression d'être au fond de la passe, qu'on m'a condamné, déjà mis à la casse, qu'on me tue à l'avance. Couler mes chances, c'est une évidence, qu'on me pisse à la face. Chercher des sens depuis ma naissance, ma seule défense, ma carapace. J'attends la délivrance, le temps avance et j'ai tous mes démons qui me suivent à la trace. Mais où est ma bouée? Si vous pouvez me la trouver, balancez-la dans les goûts, je suis en train de couler. La folie va m'avaler, je suis harcelé par mes doutes. Ils me retiennent par le cou et la corde est nouée. Mais où est ma bouée? Si vous pouvez me la trouver, balancez-la dans les goûts, je suis en train de couler. La folie va m'avaler, je suis harcelé par mes doutes. Ils me retiennent par le cou et la corde est nouée. Ma bouée, si vous pouvez me la trouver, balancez-la dans les bouches, je suis en train de couler. La folie va m'avaler, je suis harcelé par mes doutes. Ils me retiennent par le cou et la corde est nouée. Mais où est ma bouée, si vous pouvez me la trouver, balancez-la dans les bouches, je suis en train de couler. La folie va m'avaler, je suis harcelé par mes doutes. Ils me retiennent par le cou et la corde. Je suis en train de couler.
C'était la chanson « Aidez-moi » de House Gang avec Kazé. Et maintenant, on va écouter un autre micro-trottoir.
Il y a aussi une personne qui disait « L'envie de mourir, c'est quand on se sent impuissant et qu'on a envie que quelque chose change. Mmh. C'est pas forcément l'envie de que toute sa vie n'existe plus. » Mais et du coup, voilà, on se partageait ça en se disant « Cette idée-là, elle peut nous aider, quoi.
Mmh. » Ah oui, oui. Bah... Après, le truc, c'est de... Enfin, quand on a envie que quelque chose change, on peut pas non plus l'attendre forcément de l'extérieur, parce que c'est souvent prouvé quoi par la vie que ça change que quand nous on change. Mais je sais, moi ce dont je me suis rendu compte aussi, c'est qu'on se sent souvent submergé par l'idée qu'il faut tout changer ou que c'est énorme de changer. En fait, on peut commencer par des tout petits trucs, genre déjeuner le matin. C'est des trucs tout cons, ou alors se lever avant 10h, quoi, ou enfin, c'est, même si c'est pas évident, et ben en fait, c'est en mettant le pied dans la porte, quoi, que ça découle sur d'autres façons de prendre soin de soi, et en fait, c'est ça. Moi, je sais qu'il y a des fois où je vais pas bien, je vois que j'ai une tonne de vaisselle dans mon évier, je vais juste faire la vaisselle, et au lieu de me dire j'ai rien foutu de la journée, je suis pas sortie de chez moi, et je me dis j'ai fait la vaisselle, et ça faisait une semaine qu'elle était là, et ça s'est fait, et bravo, en fait. Et c'est ça, c'est les petits bonheurs, quoi. Donc, je te parle, c'est vraiment pas grand chose, mais je sais que plutôt que de se dire, parce qu'en fait, c'est trop difficile de se dire qu'il faut tout changer, et quand on est dans un état d'esprit où tout va mal, ça aide pas du tout de regarder la chose dans la globalité en se disant en fait il y a ça qui va pas. Mais si tu commences juste par faire ta lessive ou ta vaisselle, moi je sais que ça me remet un peu le pied à l'étrier aussi, de me dire en fait je suis pas bonne à rien, j'ai fait ma vaisselle et c'est déjà pas mal.
Les petites victoires et ouais, les petits pas, quoi.
Ouais, vraiment.
Ouais, et puis l'indulgence avec soi-même, ouais. Aussi, de ces moments-là, quoi.
L'indulgence avec soi-même et en parler, c'est vraiment le plus important. Je sais que je peux rester une semaine à morfondre si je parle avec une ou un de mes meilleurs amis en disant là ça va pas. Je sais que j'aurai toujours du soutien, même si c'est après les gens nous disent souvent ce qu'on a envie d'entendre, hein, et c'est pas un problème pour moi dans ce genre de situation où j'ai un pote ou une pote qui va me dire mais regarde où t'en es, enfin tout ce que t'as fait, tu t'en sors très bien en fait, tout va bien quoi, et en fait ça fait du bien de l'entendre, même si c'est des potes qui ont juste envie qu'on aille mieux, en fait de l'entendre ça fait du bien quoi,
ouais. De sentir aimé et lié,
oui.
Quoi.
Ouais carrément, de se sentir moins seul. Mm. Mm.
Est-ce que tu as envie de dire quelque chose sur ce sujet? Quelque chose que tu as envie de rajouter?
Non, pas forcément, si ce n'est que... arrêtez de regarder les infos si vous êtes déprimé. Regardez pas les infos. Ouais. Voilà,
bon conseil.
Ouais.
Merci.
De rien.
Alors, ces micro-trottoirs, on les a faits à Romans-sur-Isère. Et on nous conseille de ne pas écouter les infos. Parfois, on a envie d'y croire. Que ça nous aidera, mais quand même c'est important de savoir qu'il y a eu des grosses agressions racistes avec des envies de blesser des gens juste parce que c'était des personnes racisées, et on voulait dire que nous, à l'éclat des noctules, ça nous révoltait très fort et qu'on espère qu'il va y avoir beaucoup de mouvements de solidarité avec le quartier de la Monnaie et contre l'extrême droite. Voilà, et pour conclure cette émission, on aurait aimé aborder les dimensions de la santé mentale qui sont extérieures à l'individu, que ce soit dans les relations, les places dans les groupes, la société. On espère faire une deuxième émission sur ces sujets, parce que là, c'est déjà l'heure de conclure, genre même un peu passé. Alors, on va se contenter de parler viteuf du contexte social, comme tu viens de le faire, Jojo, parce que oui, ce serait chelou d'aller tout à fait bien dans un monde qui est plein d'injustices structurelles et de domination dégueu, et qu'à la fois, ce serait nécessaire d'aller bien pour faire face, mais qu'en fait, des fois, ça semble quasi impossible, et que du coup, vaut mieux pas rester seul avec ça. Et... Jojo, je crois que tu vas nous lire un début de texte, vu l'heure qu'il est. Je vais vous lire un tout petit extrait du « Conflit qui rend fou » écrit par Mona Chollet. Colère. Accablement face à l'accumulation des souffrances insoutenables qui défilent sur nos écrans. Sentiment d'injustice torturant, panique devant le déferlement de la propagande de guerre. Angoisse mortelle devant ce cataclysme et ses probables répercussions. Ces deux dernières semaines, rivées aux informations en provenance d'Israël-Palestine, j'ai eu plusieurs fois l'impression, comme beaucoup je crois, de perdre la tête. Donc on vous invite à aller lire la suite, vous voyez, c'est super. Ce texte, vous pouvez le trouver sur Internet, il suffit de chercher « Le conflit qui rend fou » de Mona Chollet.
Eh bah, bien, merci pour votre écoute, et belle fête de fin d'année.
À bientôt.